Alors ce soir donc nous écouterons Patricia Zarowski et Nicolas Bendrien, deux psychanalystes sur Paris. Et Nicolas Bendrien est aussi psychologue et psychanalyste dans un service de cancérologie. Il me semble que par rapport à son texte, c'est important de le situer. Je passe tout de suite la parole à Patricia. D'abord, juste, je vous précise qu'elle, plus particulièrement, elle a donc travaillé sur le passage du séminaire Encore, page 130, qui commence par « C'est parce qu'il y a l'inconscient jusqu'à et pour un autre signifiant ».
Merci. Le matériel. Bon. Nous avons choisi cette année d'aborder ce séminaire Encore sous le biais du savoir pour répondre à la question « Que peut-on savoir du savoir inconscient ?» Lacan avait commencé l'année en disant que la jouissance de l'autre n'est pas le signe de l'amour. C'est la question qu'il a travaillée tout au long de l'année et qui l'a conduit à développer ce qu'il en est du sujet de l'inconscient à partir de l'inconscient comme savoir sans sujet. À ce savoir sans sujet, Lacan va lui donner une autre portée et va dire dans cette leçon du 26 juin que le savoir, c'est une énigme. Cette thèse de l'inconscient comme savoir énigmatique qui affecte le corps va plus loin dans sa conceptualisation de l'inconscient que celle qu'il avait posée en 67 dans l'acte analytique avec l'inconscient, un savoir sans sujet. Elle ne la dément pas, mais donne une portée ontologique et épistémique au sujet. Ontologique, parce que c'est un inconscient qui ne tient pas seulement à l'âme, mais aussi au corps du sujet. Et épistémique, parce que le sujet va pouvoir savoir quelque chose de ce qui assure, je le cite, sa copulation avec le savoir. Cette nouvelle conceptualisation de l'inconscient comme énigmatique, affectant le corps du sujet, a conduit Lacan à donner la primauté à la jouissance sur le symbolique. Et il pose que la jouissance est au départ du sujet et non plus le symbolique. Alors, quelles conséquences sur le sujet de l'inconscient et sur la vie amoureuse ? Lacan commence cette leçon du 26 juin 73 avec cette même affirmation avec laquelle il avait introduit l'année, la jouissance de l'autre n'est pas le signe de l'amour. Si la jouissance est de l'un et ne fait pas rapport, où trouver dans le sujet ce qui permet la rencontre entre un homme et une femme, entre deux partenaires ? L'énigme du savoir inconscient redouble l'énigme de ce qui peut permettre la rencontre. Est-ce que son hypothèse permet de répondre à la question de ce qui fait signe dans l'amour ? Je vais rappeler brièvement l'hypothèse commentée la dernière fois par Claire Duguay, car le passage que j'ai à commenter vient dans la suite immédiate du passage commenté par elle, et il en fait partie. Mon hypothèse, nous dit Lacan, c'est que l'individu qui est affecté de l'inconscient est le même qui fait ce que j'appelle le sujet d'insignifiant. Pourquoi distingue-t-il l'individu affecté de l'inconscient du sujet d'insignifiant pour ensuite affirmer dans la même phrase qu'ils sont le même ? Dans la leçon précédente, à celle-ci, au rat dans le labyrinthe, Lacan avait défini l'individu comme l'être parlant supposé à la chaîne signifiante. C'est celui qui, en tant qu'il parle, est représenté par le signifiant. Il n'est qu'un fait de dit. Et du sujet, il avait dit que c'est celui qui parle avec son corps, et ceci sans le savoir. C'est le sujet affecté dans son corps par une jouissance qui s'est chiffrée dans le cristal de la langue. Son hypothèse, je cite Colette Solaire dans l'énigme du savoir, n'est pas que le langage soit un opérateur qui affecte l'individu, c'est-à-dire le corps vivant. Ça, c'est la thèse de Lacan. Son hypothèse est que le corps affecté est le même que le sujet d'insignifiant. Le corps affecté et le sujet sont le même. Lacan ajoute : la seule preuve que nous ayons que le sujet se confonde avec cette hypothèse est que ce soit l'individu parlant qui le supporte. C'est que le signifiant devient signe. L'individu, celui qui est représenté par le signifiant, celui qui n'est qu'effet du signifiant, comment peut-il devenir sujet d'un signifiant ? Et plus encore, peut-il ce signifiant devenir signe d'un sujet ? Alors même que Lacan affirme que le langage est à la fois condition de l'inconscient et qu'il n'existe pas, et alors aussi que le sujet n'est jamais que ponctuel et évanouissant. Pourquoi Lacan a-t-il eu besoin de revenir à cette notion du signe ? Est-ce que cela vient démentir ce qu'il a posé pendant si longtemps du signifiant représentant un sujet pour un autre signifiant ? Il avait déjà amené la notion de signe dans d'autres séminaires comme celui de l'identification, où il cherchait à définir le sujet dans sa différence. Il demandait : est-il signe, en fin de compte, lui, le sujet divisé, ou signifiant ? Il répondait : signe. Signe de quoi ? Il répond : de rien. Je le cite : le signifiant signifie auprès de l'autre signifiant cette chose privilégiée qu'est le sujet en tant que rien. Le sujet fait consister l'autre du désir pour donner sens à son désir, mais l'autre n'existe pas. Le désir, ne pouvant définir le sujet dans sa différence, dans sa singularité, Lacan va la chercher dans ce qu'il y a de plus réel chez le sujet, la jouissance. Il dit du désir qu'il est imaginaire parce qu'il est pris dans les raies de la demande adressée à l'autre, alors que pour tout sujet, la jouissance est réelle et singulière. Ce qui commande à la jouissance est l'objet A, ce qui a chu du sujet pour accéder à l'être, qui tient à l'autre et qui surgit comme absence dans la rencontre avec l'autre. La jouissance est de l'un et ne fait pas rapport, mais elle fait signe d'un sujet. Je tiens à préciser que ce signifiant devenu signe n'est ni le signe observable de la médecine, ni le signe tel qu'il le développe chez le sujet psychotique, signe dans le réel où l'enseigne lumineuse ou toute autre chose va faire signe au sujet que ça le concerne lui. Il s'agit d'un savoir déjà là, dans l'inconscient. Un S1 qui n'est pas de l'ordre de l'invention, au sens où on comprend l'invention, pour reprendre la discussion de la séance précédente où il y avait Bernard Nominé. Il ne surgit pas de nulle part. C'est le sujet, le bébé, je cite Claire Duguay, qui l'a prélevé dans la langue de l'autre du langage et porte la trace de ses jouissances. Excusez-moi. C'est parce qu'il y a l'inconscient, à savoir la langue, en tant que c'est de cohabitation avec elle que se définit un être parlant, que le signifiant peut être appelé à faire signe. L'inconscient est fait de la langue. Didier Gray a développé cela lors de la séance du 4 avril. À partir de encore, c'est la langue qui définit l'inconscient lacanien, l'inconscient dit réel. L'inconscient langage, celui qui se déchiffre dans une analyse, cesse de définir l'inconscient. L'inconscient réel est constitué par un savoir qui ne peut que rester insu et imprenable. Ce sont les affects de jouissance, émoi, embarras, empêchement, honte, entre autres, qui vont faire signe de l'existence de la langue et donc de l'inconscient. Pour la psychanalyse, disait Lacan en 70 dans Radiophonie, le signe est sa première et sa dernière affaire. Je le cite, « Ce signe est celui du sujet qui parle sans savoir ce qu'il dit, quand bel et bien se dit quelque chose par le mot qui lui manque, mais aussi dans l'impair d'une conduite qu'il croit sienne. Ce qui divise le sujet, le « ça ne va pas » de la jouissance du symptôme, est déjà là à l'entrée dans ce qui conduit le sujet en analyse. Lacan revient dans encore, au moment où il pose son hypothèse, sur la définition du signe du logicien Peirce, qui dit qu'un signe représente quelque chose pour quelqu'un. Car pour Lacan, La langue, là je le cite, est faite pour sémiotiser. La langue en un seul mot. Hein. Elle fait signe de la jouissance qui est afférente à la langue, qu'il dit affine avec la jouissance phallique. Elle est en rapport, dit-il, avec la jouissance phallique comme les branches à l'arbre. La jouissance phallique est hors corps, mais celle qui touche au corps par la langue s'insinue dans le corps par la chatouille, mais aussi, en suivant la métaphore de l'arbre, par un brin de jouissance. Ce sont ces S1, signifiant maître, signifiant qui peuvent être appelés à faire signe, qu'on peut entendre, dit-il, comme le thing ou bien aussi la chose, L'apostrophe à chose, pour dire qu'elle n'est pas signe d'une présence, mais qu'elle est la chose jouissante, le Dasein ou l'objet cerné par le langage. Ce sont ces S1 qui cernent le réel du non-rapport sexuel, conséquence, je le cite dans Radiophonie, de la faille que produit les temps de se dire. La langue cohabite avec l'être parlant. Dans L'étourdi, Lacan avait déjà utilisé cette même métaphore en parlant de cet habitat qu'est le langage, pour dire que le sujet habite le langage qui lui décerne un corps. Quand on cohabite avec quelqu'un, chacun a son lieu à soi, et seuls quelques espaces dans la maison sont partagés. L'être parlant, comment ? Oui, je l'ai pris dans le sens de la colocation. L'être parlant, mais en fait, c'est pas bon. L'être parlant est fait du signifiant, cohabite avec la langue, qui n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. Lacan ne dit pas qu'il habite avec elle, puisqu'elle lui reste étrangère en partie, comme le serait un colocataire. Il nous indique là qu'il n'y a pas chez le sujet d'un côté l'être parlant, puis de l'autre la langue. Cela équivaudrait à dire qu'il y a une schise chez le sujet et que l'être parlant ne pourrait rien savoir de cette autre partie qui le constitue. Le sujet est divisé, divisé par les essaims de la répétition qui affectent la jouissance en produisant une perte de jouissance, et par le essaim du symptôme qu'il affecte dans son corps en produisant un plus de jouir. Ce essaim prélevé du S2 se situe, je dirais, au joint entre les deux inconscients. Ce S1 est celui qui va pouvoir passer au langage dans la parole. Cet élément de la langue, qui est un élément joui hors sens, fait la trame du symptôme qui vient recouvrir un impossible, celui du rapport sexuel. Mais l'inconscient de la langue est réel et aucune objectivation du savoir ne peut signifier le manque à être. Il ne peut se reconnaître que par les effets qu'il produit sur le sujet en termes d'affect. En tant que support formel, le signifiant atteint un autre que ce qu'il est tout crûment lui comme signifiant, un autre qui l'affecte et qui en est fait sujet, ou du moins qui passe pour l'être. Ce signifiant devenu signe est support formel, c'est-à-dire qu'il est disjoint du signifié. Il n'est plus le signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant. Ce signifiant devenu signe, cet élément de la langue, atteint le sujet dans sa jouissance et le fait sujet de l'inconscient en l'affectant. Le signifiant devient objet joui dans sa matérialité. Je cite Lacan dans la conférence à Genève. Il est tout à fait certain que c'est dans la façon dont la langue a été parlée et aussi entendue pour telle et telle dans sa particularité que quelque chose ensuite ressortira en rêve, en toutes sortes de trébuchements, en toutes sortes de façons de dire. C'est, si vous me permettez d'employer pour la première fois ce terme, dans ce matérialisme que réside la prise de l'inconscient. C'est en affectant le quelqu'un qu'il devient signe. Mais ce signifiant passé au signe n'est qu'une figure du semblant. Il n'est pas le signe de quelque chose, mais d'un effet qui est le sujet. Dit Lacan dans Ou pire. Car le signe suppose le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. Il donne l'exemple du pas de fumée sans feu. Et il dit « La fumée est signe du fumeur pour quelqu'un ». Qui est ce quelqu'un ? Demande Lacan, toujours dans Radiophonie. C'est le quelqu'un de nulle part, l'inconscient, qui passe pour être sujet, car il est sujet sans le savoir. C'est en cela que le sujet se trouve être, et seulement pour l'être parlant, un étant dont l'être est toujours ailleurs, comme le montre le prédicat. Le sujet n'est jamais que ponctuel et évanouissant, car il n'est sujet que par un signifiant et pour un autre signifiant. L'intrusion du signifiant devenu signe, signe qui n'est qu'un leurre et qui a comme corrélat la castration du sujet, ne fait que démontrer la faille, la division du sujet. Le sujet est divisé entre vérité et savoir. Et comme, je cite de nouveau Colette Solaire dans l'énigme du savoir, on ne peut dire le vrai du réel, l'être est disjoint de sa vérité. Vérité qu'il peut tenter d'élaborer dans une analyse, mais reste toujours hypothétique, du fait même de la structure du signifiant. Là où je suis, je ne pense pas, et là où je pense, je ne suis pas. Le signifiant ne fait signe que d'une jouissance d'un être qui n'est que ponctuel, évanouissant. Le sujet se trouve aboli, effacé, aussitôt qu'apparu. Notre vérité, dit Lacan, n'est jamais qu'un corps. Mais ce qui conditionne la structure, le non-rapport sexuel, ne peut s'inscrire dans le corps. Alors, que peut-on savoir du savoir inconscient, la langue ? Le signifiant jouit. Peut-il être de l'ordre d'un savoir, alors que le signifiant n'a pas de sens et que la jouissance ne donne pas la clé du savoir ? Le sujet ne sachant rien du réel qui le constitue. Donc, reste ce que Colette Solaire appelle le savoir sur les négativités de la structure qui permettent une séparation de l'autre par le réel. Et en guise de conclusion, je poserai une question. Lacan, 4 ans après encore, dans son tout dernier séminaire, Le moment de conclure, dans la leçon du 15 novembre 1977, il dit « Il n'y a que les supports multiples du langage qui s'appellent la langue » Et ce qu'il faudrait bien, c'est que l'analyse arrive par une supposition, arrive à défaire par la parole ce qui s'est fait par la parole. Ma question, si la langue est un savoir impossible à savoir, comment penser qu'il soit possible de défaire par la parole ce qui s'est fait par la parole? Et que serait cette supposition à laquelle devrait arriver l'analyse? Voilà.
Merci Patricia. Et tout de suite, Nicolas.
Merci. Alors moi, je suis parti du trou noir, pas seulement pour cette intervention, mais je crois dans la psychanalyse elle-même. En effet, l'inconscient dans la cure s'est pour moi présenté sous sa forme la plus inaccessible d'emblée. Lors de la toute première séance avec celui qui a été mon premier analyste, il me fut impossible de lui dire pourquoi je venais. En sa présence physique, cette séance attendue depuis longtemps ouvrait sur un vide plutôt énigmatique. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je pus seulement articuler « c'est le trou noir ». À quoi me fut immédiatement rétorqué « le trou noir, c'est l'inconscient ». Fin de la première séquence. Cette figure du trou noir m'est revenue avec les références à la science que sème Lacan dans cette dernière leçon du séminaire qui nous occupe. Vous savez qu'une part importante de la physique se concentre sur l'exploration et l'élaboration d'un savoir des corps célestes et de l'univers, élaboration pour laquelle il faut postuler l'existence d'une partie invisible, la fameuse matière noire, irreprésentable et imprenable, mais nécessaire conceptuellement, jusqu'à présent en tout cas, pour décrire l'univers. Tout ça est très bien développé, je vous y renvoie, dans le fameux discours sur l'origine de l'univers d'Étienne Klein, qui était venu nous parler à l'école en 2011. Ce trou noir, insaisissable mais pourtant là, m'évoque irrésistiblement une des figures du savoir imprenable sur lequel nous travaillons dans ce séminaire. Vous avez peut-être vu, toujours dans le champ de la science, la couverture du magazine Ciel et Espace de mars 2013, avec Cédric Villani en couverture, avec un titre « La matière noire, je n'y crois pas ». Villani est un brillant mathématicien, directeur de l'Institut Henri Poincaré de Paris, qui a été décoré en 2010 de la médaille Fields. La médaille Fields, elle est décernée tous les 4 ans à tout au plus 4 mathématiciens de moins de 40 ans ayant produit des avancées significatives dans la discipline. On peut parcourir le chemin de l'avancée qui a mené Villani à cette suprême distinction dans un étrange ouvrage qu'il a récemment fait paraître au titre superbe « Théorème vivant ». Titre qui lie une des figures les plus abouties et formelles du savoir, le théorème, avec le réel de la vie. Je crois que ce n'est pas sans lien avec ce qui nous occupe. Le problème résolu par Villani, qui lui a valu la médaille, c'est une application du théorème de Landau, un des champs d'études privilégiés par ce chercheur, une de ses marottes, comme il le dit dans une interview récente au Monde. Il dit « Le problème sur lequel je rêverais de faire des avancées, c'est celui des transitions de phase, des passages entre deux états, comme celui entre le liquide et le gaz en fonction de la température. C'est fascinant. » Le problème, résolu par Villani, a à voir avec ce qui fait tenir les corps ensemble, mais les corps élémentaires. C'est sur l'état, l'équilibre et surtout les interactions des particules de matière, c'est-à-dire le degré de désordre qu'on appelle entropie dans cette discipline, dans un champ particulier appelé plasma, qu'a travaillé Villani à la suite de Landau, qui, lui, avait produit le théorème dans les années 40. Landau avait pu établir que dans le plasma, les particules s'équilibraient suite à une diminution du champ électrique, mais il n'avait pu le montrer que dans une version linéaire du modèle. Villani en a fait la démonstration de ce théorème dans un système non linéaire, et c'est ça qui lui a valu la médaille Fields. Son livre « Théorème vivant » est fait du récit de sa vie familiale et professionnelle, des échanges de mails relatifs au théorème avec son collaborateur, et l'on voit d'ailleurs à quel point ce savoir mathématique s'élabore avec un autre, nommément Clément Mouhot, son compagnon de travail, agrégé de mathématiques, qui suit le raisonnement de Villani, qui calcule, qui recalcule, qui vérifie, qui amène d'autres pistes également. On lit aussi dans son ouvrage des récits de rêves, une galerie de portraits et de courtes biographies de ses illustres prédécesseurs dans la science mathématique. Et enfin, des pages entières d'équations absolument indéchiffrables pour le commun des mortels. Villani me semble y témoigner dans la construction d'un savoir qui vise à une transmissibilité parfaite et sans faille, d'un rapport particulier entre l'individu et un autre type de savoir qui opère malgré lui, inconscient, tel le travailleur que Freud avait nommé Der Arbeiter, et que Lacan évoque à nouveau dans Télévision quand il dit « un savoir qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge, ce qui ne l'empêche pas de travailler, dans le rêve par exemple. Disons, c'est le travailleur idéal. » Le sujet, lui, pense et même se casse la tête sur la résolution du théorème, ce qu'écrit Villani au cours de ses recherches dans un haïku, et les jours et les nuits passèrent en compagnie du problème. Or, un matin, alors qu'il est en impasse sur un point du problème depuis plusieurs jours, Villani se réveille avec quelque chose de nouveau. Il écrit que c'est dur de se réveiller. Je me lève à grand-peine, m'assois sur le lit. Il y a une voix dans ma tête. Il faut faire passer le second terme de l'autre côté, prendre la transformée de Fourier et inverser dans L au carré. Pas possible. Lui-même, il croit pas. Villani teste l'idée apparue magiquement, et il s'aperçoit que ça fonctionne. Il appelle ça la ligne directe, quand vous recevez un coup de fil du dieu de la mathématique, et qu'une voix résonne dans votre tête. C'est très rare, il faut l'avouer. Cette rareté est plutôt rassurante. Bien sûr, on peut interroger le statut de cette voix et du savoir qu'elle énonce. Dans cette séquence-là, la première réaction de Villani est de douter, de ne pas croire immédiatement à ce qui se dit, même s'il ne semble pas douter que ce soit dit. Je relève surtout que l'idée qui a surgi est en fait une simple, enfin, entre guillemets simple évidemment, est en fait une simple réorganisation des termes de l'équation. C'est juste une autre manière de la poser. Cet encodage autre des termes du problème permet qu'un savoir nouveau se dégage. et même s'écrivent à partir de là. Ce que ne manque pas de faire Villani, après le récit de ce moment, il glisse alors dans son livre, pour démontrer ce savoir surgi de lui, mais sans lui, 10 pages d'équations pour lesquelles il regrette que l'illumination soit pour le lecteur noyée dans la technique. Ce point me semble relever d'un savoir qui opère donc sans le sujet, même s'il n'apparaît pas en prise directe avec la langue. Il y a certes une part qui relève d'un chiffrage autre du problème, d'une réorganisation des données, en les déplaçant, en les agençant autrement. Ceci serait plutôt du côté de l'inconscient langage et du chiffrage. Mais il y a plus que cette dimension de chiffrage dans cette séquence-là. Il y a un savoir comme processus qui, au fond, reste imprenable, qui surgit sans contrôle, tout crûment, et dont il faut ensuite s'atteler à vérifier les implications. De ce savoir s'extrait quoi ? Est-ce que ce sont des signifiants qui représentent un sujet pour un autre signifiant ? Ça ne semble pas le cas dans la solution apparue à Villani. Peut-être sommes-nous plus proches du signe, représentant quelque chose pour quelqu'un qui sait le lire. Mais si l'on suit les indications difficiles de Lacan dans le passage qui nous occupe ce soir, est-ce que c'est un signe du sujet, ou plutôt de la jouissance du sujet chercheur ? S'agit-il de signifiants appelés à faire signe ? C'est un problème qui, pour moi, ne s'est pas résolu par illumination un beau matin. Un point me paraît en tout cas assuré, c'est que le corps est impliqué dans ce processus-là, que ce savoir est en prise avec la jouissance. Villani, on l'a vu, se heurte à des contradictions mathématiques pour un temps insoluble. Dans l'avancée vers la résolution, tout son corps est engagé. Il marche. Il s'enferme dans le noir dans la chambre de ses enfants. Il se met pieds nus sur la moquette. Il a parfois le visage agité de tics, ce qui impressionne son épouse. Le problème est vivant. Il est une chose qui s'agite en lui, qui prend possession de ce chercheur, jusqu'à ce qu'il devienne théorème incarné, non sans apaisement et satisfaction. Villani le théorème, peut-être serait-ce le nom d'une cohabitation d'un sujet et d'un savoir qui l'affecte et le dépasse, et pourtant au cœur de ce qu'il élabore. Cependant, notre réel n'est pas le réel de la science, et comme le rappelle Lacan dans Encore, le truc analytique ne sera pas mathématique. Nous n'avons, nous, pas le recours au théorème pour symboliser le réel. Le réel dont nous nous occupons, c'est selon Lacan qu'il déduit de Freud, celui de l'impossible rapport sexuel, impossible à écrire. Que pouvons-nous en savoir qui ne soit pas qu'un trou noir ? Il faut bien en passer par ce qui voile cette absence d'écriture, soit le fantasme. Il était peut-être plus facile de répondre à la question de ce que l'on pouvait savoir, du savoir inconscient, il y a quelques années. Quand la théorie de la traversée du fantasme, abordée pourtant une seule fois par Lacan, dans le séminaire des 4 concepts, était d'actualité, beaucoup de témoignages d'AE mettaient en valeur la lente construction du fantasme, sa traversée, l'objet qu'ils avaient été dans leur fantasme et comment ils s'en étaient défaits. Cette conception, qu'on juge aujourd'hui un peu courte pour la fin de la cure, ne serait-ce que parce qu'elle ne s'orienterait que de l'inconscient langage, n'est quand même pas sans poids clinique. Elle signe en effet un vrai virage dans la cure, ouvrant à la fois à une désupposition du savoir de l'analyste qui jusqu'à là l'incarnait, ainsi qu'à un savoir qui me semble dégonflé, vidé du savoir du fantasme, ouvrant aussi à un savoir en dehors de la pré-interprétation du fantasme. Un savoir qui ne voile plus l'impossible, mais un savoir qu'il y a de l'impossible. Pas sans la dimension du corps, pas sans l'éprouver par l'affect, de soulagement, de vide, de deuil après cette passe. Le savoir du fantasme n'est pas imprenable. C'est l'opération analytique même de le prendre, en le vidant de sa jouissance, pour que dans toutes ses variantes, l'axiome se construise et ne demeure qu'une épure afin de s'en déprendre. Qu'une structure vide, certes toujours là chez le sujet, mais ayant perdu son pouvoir d'attraction et même de captation, telle la matière noire qui absorbe tout. Avant la traversée, quand le fantasme est encore consistant, toute émergence du savoir sans sujet peut se trouver ramenée au cadre du fantasme et déboucher le tonneau du sens. Il me semble que ce n'est plus aussi automatique ensuite et que ça laisse place à notre propre surprise devant chaque émergence de ce savoir, chez soi comme chez ceux que nous écoutons. Il reste du savoir imprenable, qui excède la dimension fantasmatique, mais dont on ne pourrait finalement appréhender la dimension réelle avant la traversée du fantasme. Et en appréhender la dimension réelle, ce n'est pas forcément la déchiffrer, ni la penser. Mais toute traversée n'ouvre pas sur un tel rapport au savoir imprenable. Il y a des traversées sauvages, hors cure, liées à une rencontre violente avec le réel et qui font perdre l'assurance que chacun tire de son fantasme, alors incapable de remplir sa fonction d'écran sur le réel. Cette déchirure du fantasme n'est pas didactique, dans le sens où elle épingle le sujet sous un savoir sans lui permettre de l'exercer. Ça peut d'ailleurs être le point de départ d'une cure plutôt que son point d'arrivée. Dans le champ de la maladie grave dans lequel j'exerce encore une partie de mon temps, il n'est pas rare que je rencontre des patients ayant effectué cette sorte de traversée sauvage, où par exemple la menace mortelle à laquelle chacun croit de loin se trouve actualisée et même réalisée. Dans la clinique quotidienne de l'effraction traumatique, le sujet est en proie au retour quasi imposé d'un signifiant tout seul, qui ne se met pas en chaîne, qui ne se refoule pas, et qui écrase sous son poids de jouissance mortelle. Là, c'est comme si le signifiant traumatique, qui souvent n'est pas du sujet, qui lui est même asséné par l'autre, était appelé à faire signe de lui réellement, faire signe de la menace d'anéantissement à laquelle il est réduit, le corps étant là aussi tout spécialement engagé et éprouvé, notamment dans l'angoisse. La chaîne associative est alors rompue, le 1 ne cesse de surgir sans faire lien à d'autres. Ce chiffre signe surgit sans crier gare, qui s'impose hors fantasme, qui affecte, n'appelle pas au déchiffrage et ne permet pas au sujet d'en dégager un quelconque savoir-y-faire. Ce serait plutôt l'enjeu de la rencontre avec un analyste qui pourrait introduire un tout petit peu d'équivoque dans ce qui se présente comme un trop-plein de signification. Avec le trauma, quand il est porté par un signifiant, comme peut-être avec l'hallucination, il me semble que nous avons de façon quasi expérimentale le chargement du signifiant en jouissance, le faisant passer au signe. Quelques mots, enfin, sur les mots de la fin, de la cohabitation du sujet et de la langue qui l'affectent. Oserais-je vous dire ma surprise dans les épisodes qu'on dit de confusion chez certains patients en phase terminale ? Pour ces sujets aux prises avec l'Iflosigkeit, la détresse absolue qui fait éprouver l'impuissance. La surprise donc de les entendre évoquer leur mère ou toute autre figure aussi essentielle dans les termes les plus archaïques, comme on ne dit pas dans notre champ. Il n'est pas toujours possible de savoir si c'est un cri ou un appel adressé à ce qui fut le premier autre, ou peut-être même les traces de leur langue quand ces mots sont répétés à l'envi, comme une mélopée pour endormir un tant soit peu le corps envahi par la douleur.